Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire. Et merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Au mois de septembre dernier, la revue des Deux Mondes posait une question qui pouvait surprendre bon nombre de lecteurs. À quoi bon l'Europe ? Se demandait en première de couverture la revue de Marc Ladret de La Charrière. Il est vrai que depuis le non français et hollandais au référendum et l'échec du projet constitutionnel qui en fut la conséquence, l'Europe ne semble plus faire recette, ceci malgré le mini-traité ou traité simplifié. C'était au mois de juin dernier, le 23 très exactement, vers 4h30 du matin, après 36 heures de négociations, où la Pologne joua le rôle de trublion. Les 27 membres se mirent d'accord sur un texte qui, pour l'essentiel, reprenait la Constitution européenne sans le symbole. Ainsi, l'Europe sera sortie d'une nouvelle crise qui aura duré plus de 2 ans. Ce n'était pas la première, loin de là. En ouvrant toujours notre revue des Deux Mondes du mois de septembre dernier, Jean-Thomas Le Sueur, délégué général de l'Institut Thomas More à Bruxelles, nous apprenait que les concepteurs du Musée de l'Europe dans la capitale belge, qui vient juste d'ouvrir ses portes, avaient décidé de faire de l'année 1945 l'année zéro de l'histoire européenne. 1945, année zéro, rien n'est évidemment plus faux, comme nous allons le voir au cours de cette émission. Alors quand effectivement commence l'Europe ? À partir de quelle date peut-on évoquer un système européen ou bien un ordre européen ? Quelles en furent ces grandes évolutions politiques ? Car l'Europe fut bien évidemment politique avant d'être économique. Autant de questions sur un sujet tout aussi important que nous allons essayer de démêler avec l'historien Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à cette nouvelle invitation de Canal Académie. Vous êtes spécialiste d'histoire des relations internationales, notamment des rapports franco-allemands, des relations Est-Ouest, professeur à la Sorbonne. Je vous reçois pour la 3e fois au micro de Canal Académie. Nous avons déjà évoqué ensemble l'ordre de Yalta et de Potsdam, ainsi que la crise de Berlin et de Cuba, car les deux sont associés. Il s'agissait de politique à l'échelle mondiale. Notre prétention géographique va être moins grande aujourd'hui, puisque nous nous intéressons à l'Europe, même si, comme je viens de le dire, le sujet est très vaste. Alors, vous venez de publier aux presses universitaires de France, dans la collection Nouvelle Clio, l'histoire et ses problèmes, l'Europe de 1815 à nos jours. Alors, 1815 à nos jours, tout est dans le titre, 1815. L'Europe commence bien avant 1945.
Bien entendu, elle commence même avant 1815, mais enfin, il s'agissait de respecter le plan de la collection. Et malgré tout, le congrès de Vienne est un des moments essentiels où l'Europe prend conscience d'elle-même, c'est peut-être pas la meilleure formule, mais en tout cas, prend conscience du fait que si elle veut maintenir la paix, elle doit respecter un certain nombre de règles correspondant à ce que l'on appellerait aujourd'hui le système européen et qu'on appelait à l'époque le concert européen. Concert signifiant ici concertation dans le langage du temps.
Alors nous allons revenir sur ces notions de système, de concert européen, d'équilibre des puissances qui dominent votre ouvrage. Mais avant de revenir à l'histoire, je souhaiterais aborder d'abord la nature de cet ouvrage qui succède en quelque sorte à l'ouvrage de Jean-Baptiste Durosel, ancien membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Quelles sont les transformations fondamentales du paysage universitaire français, mais aussi européen, qui vous ont amené à reprendre le flambeau de cette histoire de l'Europe ?
Oui, c'est une histoire qui est tout à fait différente. En fait, cette collection, il faut le rappeler d'un mot, est destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur. Elle comprend donc une première partie bibliographique assez développée, une deuxième partie qui est un récit au sens traditionnel du terme, et une troisième partie qui est une série d'études et d'analyses à la fois historiographiques et bibliographiques et problématiques. Alors, la partie bibliographique ne peut absolument plus se faire comme on le faisait dans le temps, tout simplement parce que le renouvellement des bibliographies est extrêmement rapide, donc trop rapide pour un livre qui ne peut pas être modifié tous les 5 ans comme il faudrait le faire. Je renvoie donc les étudiants essentiellement des collections de l'enseignement supérieur qui sont dans tous les pays constamment remises à jour et à beaucoup de sites Internet qui leur permettent d'avoir accès aux bibliographies les plus récentes, je dirais, thème par thème. Mmh. La deuxième partie, qui est le récit, doit être beaucoup plus développée que ce n'était le cas du temps de Jean-Baptiste Durosvel, tout simplement parce que nos étudiants arrivent à l'université, et ça vaut pour l'ensemble de l'Europe. Enfin, nos étudiants arrivent à l'université très peu formés dans ce domaine par l'enseignement secondaire. Il faut donc aller plus loin dans le récit. Troisième partie, c'est-à-dire les études d'historiographie, de bibliographie, de méthodologie, a pris évidemment une importance croissante avec la multiplication, dont il faut d'ailleurs se réjouir, du nombre des universitaires faisant de l'histoire de l'Europe contemporaine, du nombre des étudiants, du nombre des centres de recherche, des revues, etc.
Donc, en fait, c'est un ouvrage avant tout destiné aux étudiants.
Oui, et en même temps.
Et à tous ceux qui s'intéressent évidemment à l'histoire européenne.
Oui, parce que je n'ai pas voulu faire simplement un manuel. Mmh. Et c'est issu de 4 ans de cours à la Sorbonne, dans une unité consacrée spécifiquement à l'Europe. Donc, c'est bien au départ un travail fait pour les étudiants. Mais en même temps, j'ai tenu à ce que ce soit un véritable livre, pas un simple manuel, avec mes idées présentées avec réserve. Ce n'est pas un pamphlet, mais enfin, en même temps, qui apparaissent assez nettement, distingué, disons, assez clairement de ce qui est l'histoire généralement acceptée aujourd'hui, de façon à ce que quelqu'un qui ne soit pas en train de préparer une licence d'histoire puisse quand même lire ce texte avec intérêt.
Mmh. La première partie ne se lit pas à proprement parler. La première partie, vous l'avez dit,
des références
bibliographiques. Ce sont des références. Il y a également une méthodologie de travail.
Oui, alors j'ai voulu, parce qu'on ne peut évidemment pas tout dire sur l'Europe depuis 1815, et d'autre part, je ne sais pas tout, n'est-ce pas? Alors j'ai voulu axer cela sur trois axes essentiels. Primo, essayer de montrer en quoi on peut parler d'une histoire européenne et pas d'une simple juxtaposition d'histoire nationale. Beaucoup plus difficile qu'on pourrait le penser, parce que les histoires, de fait, les livres d'histoire restent encore très nationaux pour la plupart. Deuxième axe, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'idée d'un système international particulier à l'Europe, n'est-ce pas, sur lequel on va sans doute revenir. Et puis, troisième axe, s'il faut résumer d'un mot l'Europe de 1815 à nos jours, c'est-à-dire 2007, je vais jusqu'en 2007, eh bien c'est l'avènement de la démocratie à travers tout le continent, à travers bien des drames, mais enfin quand même, c'est ce qu'on pourrait dire si on me demandait de résumer en trois mots, c'est l'avènement de la démocratie en deux siècles.
Oui, vous allez vraiment jusqu'à l'ultime négociation du mini-traité au mois de juin dernier. Alors, j'allais dire, il est important de dire aux étudiants, et on le sent bien à la lecture de votre ouvrage, que quand on parle anglais, quand on parle allemand, quand on parle italien, ça aide énormément.
Ah, c'est absolument essentiel. Je ne conçois pas que l'on puisse faire des études d'histoire aujourd'hui au niveau, je dirais, professionnel, sans maîtriser au moins ces trois langues, au moins la lecture. Et je regrette d'ailleurs profondément de ne pas être capable de lire, au-delà de quelques mots, de lire le russe, n'est-ce pas, qui devient de nouveau, ou redevient de plus en plus important. Mais anglais, allemand, italien, espagnol, je dis, bon, ben, c'est absolument essentiel.
La notion d'histoire comparative est très importante aussi dans votre ouvrage. C'est une nouvelle dimension de l'historiographie aujourd'hui.
Tout à fait, parce que, je vous l'ai dit, depuis le 19e siècle, enfin depuis la naissance de l'historiographie moderne, dernière partie du 19e siècle, qui correspondait à la période des États-nations les plus classiques, n'est-ce pas? Les histoires étaient nationales, avec même d'ailleurs une certaine tendance justificative. Tandis qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier à partir des années 70, on a commencé à développer une tentative d'histoire européenne comparative, comparant les pays les uns aux autres pour retrouver les traits communs, les grandes lignes de force. Ce sont les Allemands, à mon avis, qui ont commencé dans ce domaine. Ça a été ensuite repris progressivement un peu partout. On a maintenant des ouvrages de synthèse, même des ouvrages dans certains domaines, en particulier pour l'histoire économique, sociale, politique, des collections d'études comparées à un niveau même plus fouillé. La comparaison, qu'elle soit bilatérale, France-Allemagne par exemple, ou multilatérale au niveau européen, est devenue une discipline historique à part entière, avec des revues, des groupes de recherche, des associations qui développent soit de façon bilatérale, soit de façon vraiment multilatérale, cet ensemble, n'est-ce pas, de nouvelles réflexions qui relativisent complètement, qui n'annulent pas, bien entendu, mais relativisent ou remettent en perspective les travaux plus classiques.
C'est l'historiographie allemande qui prend le dessus.
Elle a donné le ton à un moment donné. Maintenant, je dirais que les études comparatives les plus audacieuses se trouvent peut-être tout autant en Italie, en Angleterre ou aux États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos collègues américains travaillent beaucoup sur l'histoire de l'Europe avec un point de vue qui, je dirais, est forcément comparatif, ou comparatiste même, dès le départ. L'association américaine, par exemple, l'histoire de France, est extrêmement originale dans le choix de ses thèmes et voit des points communs, des lignes de force que nous ne distinguons pas toujours. Il reste que, actuellement, vous avez une association d'historiens contemporanéistes français et allemands qui, depuis les années 90, au rythme d'un colloque tous les deux ans, développe systématiquement cette approche comparatiste, c'est son but. Vous avez une revue de Cambridge qui s'appelle Contemporary European History, qui est, elle, vraiment le lieu où publier les études comparatistes, qu'elles soient sociales, économiques, politiques. Donc, c'est certainement ce qu'il y a de plus neuf. D'autre part, très précisément, dans nos jurys de thèse, par exemple, de plus en plus, nous faisons appel à un, voire deux collègues étrangers dans le jury pour apporter, disons, le point de vue du partenaire dans des entreprises qui, de plus en plus, sont comparatistes ou européennes, bilatérales ou multilatérales.
Donc, votre ouvrage, hein, Georges-Henri Soutou, L'Europe de 1815 à nos jours, paru au PUF, un ouvrage donc destiné à tous les étudiants qui s'intéressent à la question européenne, hein, puisque vous abordez la question sous tous ses aspects en présentant les différentes écoles. J'en viens à l'histoire à proprement parler. En 1998, vous aviez dirigé un travail paru aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne, un travail qui s'intitulait « L'ordre européen du XVIe siècle au XXe siècle ». Alors, faut-il parler d'ordre ou bien de système européen, ou bien les deux expressions recouvrent la même réalité ?
Non, si vous voulez, pas exactement. Il faut distinguer les deux expressions. Je les emploie toutes les deux, mais en ne leur donnant pas tout à fait la même signification. Le système ou la constatation de l'existence d'un système européen, c'est une constatation de fait, objective, qui bien entendu peut être discutée, mais qui ne comporte pas de jugement de valeur a priori. Si on emploie au lieu de l'expression « système européen », l'expression « ordre européen », cela suppose immédiatement qu'au-delà du système ou dans le système et dépassant le système, il y a un ensemble de valeurs. Et de valeurs sur lesquelles on n'a pas, l'historien ne porte pas un jugement, mais qui sont suffisamment cohérentes et profondes pour qu'un système qui peut être assez anarchique soit en fait ordonné, c'est-à-dire un véritable ordre. Alors, certains de mes collègues n'aiment pas l'expression « ordre européen », d'une part parce qu'elle a été peut-être utilisée dans d'autres circonstances pendant la Deuxième Guerre mondiale où on parlait d'ordre nouveau ou de nouvel ordre européen ou d'ordre nouveau en Europe, ce qui, bon, évidemment, peut déplaire, même si ce n'est évidemment pas mon propos. Mais surtout, c'est l'idée d'un ensemble de valeurs communes, disons de civilisation commune, qui est actuellement très discutée et même, je dirais, n'est pas admise dans les milieux universitaires français, où on parlera de civilisations, avec un S, européenne ou en Europe, mais certainement pas de civilisation sans S européenne, comme on le faisait dans les années 30 ou encore dans les années 60, n'est-ce pas ? Alors là, ça, c'est un clivage fondamental sur lequel on reviendra peut-être, mais il n'est pas possible, dans un milieu scientifique français actuellement, de faire accepter la notion d'une civilisation européenne qui sous-tendrait un système européen et constituerait donc, avec ce système, un ordre européen.
Alors, quand apparaissent chronologiquement ces concepts, ces expressions, c'est ce que je vous propose de voir, Georges-Henri Soutou. Après cette toute première pause, nous nous retrouvons dans un instant.
J'ai deux amants. Il avait pour parrain le tsar Alexandre III et pour père le grand acteur Lucien Guitry. Sacha Guitry a conquis le public français sur scène et au grand écran. Canal Academy dédie une série d'émissions à Guitry, avec celui qu'il a connu personnellement, Alain Decaux, avec celui qui s'y réfère à toute occasion, Jean-Marie Rouart, avec celui qui admire son naturel, Félicien Marceau. Nous vous proposons de décrypter le cinéma de Sacha Guitry avec les commissaires de l'exposition de la Cinémathèque et d'analyser la figure de Napoléon dans ses œuvres. Canal Academy fête enfin Guitry et la comédie musicale Guitry et Yvonne Printemps. C'est sur Canal Academy en partenariat avec la Cinémathèque française.
Mais mon Dieu, que c'est bête un homme, un homme, un homme. Mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, à vous penser. Deux.
Un jour dans l'histoire reçoit Georges Rissoutou, professeur à la Sorbonne et auteur du livre « L'Europe de 1815 à nos jours », donc dans la continuité de Jean-Baptiste Durosel, un ouvrage très important puisqu'il aborde toutes les questions européennes, ceci donc de 1815, du congrès de Vienne jusqu'à nos jours, tous les débats, toutes les problématiques existantes autour de l'Europe, un ouvrage destiné et aux étudiants et également aux passionnés de la question, un ouvrage paru aux éditions PUF dans la collection Nouvelle Clio. Alors nous avons évoqué cette notion d'ordre et de système européen qu'il faut bien distinguer selon effectivement les écoles et selon ce que vous expliquiez avant la première pause, selon vos collègues. Cette expression d'ordre européen apparaît à partir de quand ?
Apparaît, vous trouvez l'expression de système européen, l'expression d'ordre européen dès la première période, dès le congrès de Vienne en fait, en notant néanmoins que l'expression la plus usitée au XIXe siècle, c'est celle de concert européen. L'expression système ou l'expression ordre européen est plus rare. En revanche, ces deux expressions de système ou d'ordre européen ont été utilisées constamment et de proportionnellement plus fréquemment par la suite. Pour éviter toute ambiguïté, des personnes aussi différentes que Bainville, Jaurès, De Gaulle utilisent l'expression d'ordre européen.
Donc elle n'est ni de droite ni de gauche.
Elle n'est ni de droite ni de gauche. Le fameux discours de De Gaulle devant la Diète polonaise en 1960 appelle la Pologne à rejoindre l'ordre européen. Elle est historiquement ni de droite ni de gauche. Bon, aujourd'hui, elle est connotée incontestablement. Mais ça, c'est dû au... l'accident historique, mais au départ, il n'est pas connoté. Notons d'autre part que le général de Gaulle utilise aussi l'expression « concert européen », mais moins fréquemment, disons, semble-t-il. Donc, chacune de ces trois expressions souligne un aspect plus spécifique. Je l'ai déjà dit pour ordre, valeur, système, c'est un ensemble de relations qui ont l'équilibre, si vous voulez. Bon. Et concert européen, c'est concertation permanente, qui est à la fois une réalité et en même temps une obligation. Ça ne se fait pas, d'après les règles non écrites, mais très profondément incrustées du concert européen, de prendre une décision comme une grande puissance, n'est-ce pas, sans avoir consulté les partenaires. Ça ne se fait pas de prendre une décision dans son coin ou avec un autre partenaire sans consulter les autres. C'est la concertation multilatérale entre les grandes puissances, bien entendu, pas les petites, mais la concertation multilatérale entre les grandes puissances, qui est la règle fondamentale du concert européen.
Vous dites qu'elle apparaît, cette notion, en 1815, mais on en voit les prémices bien avant, à l'époque moderne ?
Oui, tout à fait. On le voit très bien au congrès de Westphalie. Encore qu'on pourrait souligner que le congrès de Westphalie, quand on regarde son déroulement, ne se déroule pas comme le congrès de Vienne, qui lui-même ne se déroule pas comme le congrès de Paris de 1856, qui est le premier congrès international vraiment multilatéral de façon moderne, et pas une simple juxtaposition de textes bilatéraux vaguement reliés entre eux par un acte général, n'est-ce pas ? Donc, point de vue de la technique diplomatique, le véritable concert multilatéral n'est vraiment codifié qu'en 1856. Mais enfin, il existe dès le XVIIe siècle, mais il avait été annulé dans la dernière partie du XVIIIe siècle lorsque la Prusse, l'Autriche et la Russie s'étaient mises d'accord pour se partager la Pologne sans l'aval, sans l'accord, sans même consulter les autres puissances européennes, en particulier le Royaume de France, n'est-ce pas, qui avait tout de suite mis le doigt sur la difficulté. Et les reconstructeurs, je vais les appeler ainsi, de 1815, ont certes voulu évidemment restaurer l'Europe après la crise, la Révolution et de l'Empire, pas restaurer l'Ancien Régime, on y reviendra peut-être, mais restaurer l'Europe, pas forcément l'Ancien Régime, mais ils ont voulu également, ce que là on perd souvent de vue, ils ont voulu également éviter de retomber dans les erreurs désastreuses de ce qu'on appelait à l'époque la politique de cabinet, c'est-à-dire la politique secrète, quelques cours européennes s'entendant éventuellement avec un ou deux partenaires, mais jouant leur jeu sans consulter l'ensemble de l'Europe. Mmh. Le mot « Europe » apparaissant, à mon avis, beaucoup plus souvent dans les textes du XIXe siècle que dans les textes, je parle des textes politiques, diplomatiques, du XIXe, que dans les textes du XXe siècle, en dehors du domaine spécifique de la construction européenne. Mais c'est au nom de l'Europe qu'on s'exprime. On parle de l'Europe comme, disons, but ultime ou ultime arbitre de toutes ces questions de façon tout à fait courante. Prenez quelqu'un comme François Guizot, qui a été ministre des Affaires étrangères, il ne faut pas l'oublier. Bon. Il est l'auteur d'un livre fondamental qui s'appelle « La civilisation européenne ». C'est lui qui a inventé cette expression, n'est-ce pas ? Et dans ses écrits, vous trouvez constamment les termes d'ordre ou de système européen.
Alors justement, votre propos, finalement, on sent en filigrane la notion d'identité européenne, cette identité européenne que vous abordez dans la troisième partie de votre ouvrage, qui apporte toute la problématique de l'Europe, les grands débats, les grands problèmes. Cette notion d'identité européenne est vieille, entre guillemets, puisque tout étudiant en histoire connaît le livre de Paul Hazard, la crise de la conscience européenne. C'est une réalité, cette conscience européenne ?
Alors, pour les élites, en tout cas au départ, c'est ce qui est apparu lorsqu'on a pris conscience du fait que la coupure en deux de la chrétienté à cause des guerres de religion, si vous voulez, au XVIe siècle, serait définitive. Avant, le terme européen est strictement géographique, c'est un terme purement savant qui n'a pas d'écho. Mais on parle de chrétienté. Bon. Mais à partir de la fin de l'unité de la chrétienté, il faut un concept de substitution pour manifester quand même ce qui unit les Européens malgré leurs différences de religion par rapport au monde extérieur, que l'on découvre le plus en plus depuis la fin du XVe siècle, n'est-ce pas ? Et là, le mot « Europe » s'impose de plus en plus. Donc, l'Europe, si vous voulez, la chrétienté laïcisée.
Alors, l'identité européenne repose à la fois sur l'histoire et sur une notion de civilisation, mais bien d'autres interprétations existent de l'identité européenne.
Et oui, et il en existe actuellement tellement qu'il est impossible de se mettre d'accord sur une définition. Je parle là des savants, bien entendu.
D'où les débats que vous présentez.
Oui, oui. Et actuellement, lorsque j'ai commencé mon travail, j'irai ma réflexion, dès la fin des années 90, vous l'avez rappelé avec ouvrage qui est en sorte, une sorte de précurseur. Bon,
l'ordre européen du XVIe au XXe siècle aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne.
J'ai respecté mon livre. Il me faut à peu près 9 ans pour mettre au point un gros ouvrage entre le point de départ et l'arrivée. C'est le rythme habituel. Bon. Il est clair que j'avais une idée au départ fondée à la fois sur la notion d'un système de relations internationales dans le monde ayant sa spécificité, et informé par des valeurs et une civilisation commune. Bon. La seule chose, c'est que si je continue à partager, bien entendu, cette vision fondamentale, j'ai essayé de la faire reconnaître comme un point de départ par mes collègues pour d'éventuels programmes de recherche, etc. J'ai échoué, n'est-ce pas ? Puisqu'on récuse la notion de civilisation européenne, ou en tout cas civilisation singulière, bien entendu, puisqu'on recuse l'idée d'une adéquation géographique particulière entre un système et une civilisation, puisque finalement, on a maintenant des définitions multiples de l'Europe, n'est-ce pas ? J'avoue que j'ai renoncé, même si j'ai moi-même toujours mes idées, j'ai renoncé à en présenter une définition scientifique, ce qui n'est pas admise par la plupart de mes collègues. Et le problème de la Turquie, n'est-ce pas, est là tout à fait net.
Le problème de la Turquie, dont vous dites d'ailleurs, on appelait la Turquie à la fin du 19e siècle l'homme malade de l'Europe.
Oui, oui, non, mais justement, parce que ça, le problème de la Turquie est tout à fait complexe, parce que si on prend l'Europe comme une civilisation, la Turquie relève d'une zone différente. Mmh. Tout le monde est d'accord. Mais si on prend l'Europe d'abord comme un système international de relations, la Turquie en fait pleinement partie depuis le XVIe siècle, n'est-ce pas ? Donc, indépendamment des questions plus modernes, enfin, fondamentalement, la Turquie est au Congrès de Paris 1856, est pleinement acteur de tous les grands traités, enfin, c'est jusqu'au traité d'après 1919. Donc, de ce point de vue-là, elle en fait partie. Si on veut comprendre l'Europe, pas simplement comme un système international, mais comme un ensemble de civilisations, voilà, c'est forcément différent. Mais c'est cette vision même qui est rejetée comme ascientifique ou non scientifique par, je pense, la majorité de mes collègues. Mmh. Donc, pour un ouvrage destiné quand même aux étudiants, qui n'est pas un essai, disons, d'humeur, pas un texte purement personnel, je suis obligé d'en tenir compte.
Mmh. Alors, en revanche, il y a une réalité que vous présentez, c'est une réalité historique qui ne relève pas du débat, c'est qu'il y a une notion moderne d'Europe qui est aussi une notion anglaise, le fameux « balance of power ». Que recouvre cette notion de « balance of power » ? Est-ce un équilibre mécanique, simplement, des puissances ou, au contraire, davantage ?
Alors, pour l'inventeur de cette expression qui a été explicitée pour la première fois au XVIIIe siècle par le philosophe anglais Hume, c'est pas, qui écrit même un livre « The Balance of Power », sur l'équilibre des puissances. C'est purement mécanique. C'est-à-dire que l'Europe est ainsi faite. On ne donne pas d'explication, on constate que les 5 ou 6 grands pays qui, à toutes les époques, la dirigent, si vous voulez, s'arrangent toujours pour établir l'équilibre face à un perturbateur en s'alliant entre eux. Quand c'est l'Espagne qui commence à casser les pieds, les autres se mettent d'accord contre l'Espagne. Quand c'est la France, soit Louis XIV, soit Napoléon, c'est contre la France qu'on s'allie. Quand c'est l'Allemagne, c'est contre l'Allemagne, de guerre mondiale. Étant d'ailleurs sous-entendu, n'oubliez pas que les auteurs sont anglais, que l'Angleterre, les auteurs de la théorie sont anglais. Les Anglais étant en position périphérique, pouvant jouer de manière indirecte par leur flotte, etc., ce sont eux les arbitres de cet équilibre. Ce sont eux qui l'organisent, l'organisent ou contribuent à l'organiser ou à le réorganiser. Et ça, c'est la limite de la notion de balance of power parce qu'elle exclut ou ne comprend pas, disons, elle ne comprend pas le système organisé de relations internationales par concertation permanente, par la voie diplomatique bilatérale, par des conférences multilatérales, organisées ensuite par un ensemble de textes juridiques traités, enchaînés les uns aux autres. Il faut savoir qu'il y a une continuité juridique de tous les traités du XIXe siècle jusqu'à 1914 à partir du Congrès de Vienne. N'est-ce pas ? Il y a des renvois des uns aux autres. Je ne peux pas développer ça dans le détail, mais c'est un ensemble, c'est un corpus de droit international qui se développe.
C'est très important parce qu'il n'y a pas d'institution à Bruxelles comme aujourd'hui qui organise les choses, mais il y a bien un organisme juridique, il y a des normes juridiques internationales.
Tout à fait, il y a des normes juridiques et des pratiques diplomatiques internationales qui, au moins pour les grandes questions non politiques et stratégiques, on pèse de tout leur poids, ont été efficaces pendant un siècle pour maintenir, sinon une paix totale, du moins une paix générale pour éviter une guerre générale. Et d'autre part, tout ça est doublé à partir du milieu du XIXe siècle par toute une série d'organismes techniques, que ce soit les organismes internationaux de poids et de mesure, pour les droits d'auteur, pour tout simplement le trafic ferroviaire, le trafic postal, enfin tous les accords internationaux nécessaires pour faire fonctionner, avec déjà d'ailleurs des éléments de monnaie communes, sinon uniques, fondés sur l'or, n'est-ce pas, pour faire fonctionner un ensemble qui est de plus en plus un ensemble économique, intellectuel et politique européen. Si vous prenez Napoléon III, par exemple, il a un projet européen complet, y compris une cour de justice européenne, n'est-ce pas ? Ces idées sont déjà très, très présentes dès le milieu du XIXe siècle, extension de Vienne.
Cela réhabilite un peu Napoléon III et sa politique étrangère. Alors, quelles sont les limites de ce système, de ce concert européen tel qu'on le conçoit au XIXe siècle ? C'est ce que je vous propose de voir dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous entamons la troisième partie de cette émission consacrée à l'Europe. Georges-Henri Soutou, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes l'auteur du livre L'Europe de 1815 à nos jours, paru aux presses universitaires de France. Alors nous avons longuement évoqué cette notion de concert européen qui domine le 19e siècle. Enfin, qu'il domine, il faudrait apporter un bémol parce que disons que cette notion de concert perdure jusqu'en 1851 et après, avec la politique napoléonienne précisément que nous évoquions avant cette pause et surtout la politique bismarckienne, est-ce qu'on n'assiste pas à une remise en cause de cette notion de concert et ultimement, en quelque sorte, à sa remise en cause globale et complète avec son échec par la guerre de 1914-1918 ?
Bien, ça, c'est une très importante question que vous posez aux séries de questions, parce que tout le monde dit que Napoléon III, conformément d'ailleurs à sa propagande pour arriver au pouvoir, remet en cause systématiquement les traités de Vienne et le concert européen qui les perpétuait. Bon, c'est vrai qu'il a modifié les choses, remettant la France en tête du système, en favorisant l'unité italienne, l'unité allemande, on sait tout ça. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a introduit ces nouveautés, mais il n'a jamais abandonné le concert européen. Je prends un exemple pour me faire comprendre. Le rattachement de la Savoie en 1860. Bon, il y a un plébiscite, ce qui est tout à fait moderne. Ça, c'est le droit des nationalités, c'est Napoléon III. Ce n'est pas le système de Vienne, qui ne repose pas sur la reconnaissance du droit des nationalités, bien entendu. En même temps, ce plébiscite est précédé par un traité en bonne et due forme avec le roi de Piémont-Sardaigne, qui, en bonne et due forme, remet la Savoie à la France. Ça, c'est ce qu'il y a de plus traditionnel. Et en plus, Napoléon III notifie l'annexion aux grandes puissances, conformément à l'article, je ne sais plus combien, de l'acte final du Congrès de Vienne, qui stipulait que toute modification de frontières nécessitait l'accord des puissances signataires de l'acte final de Vienne. On pourrait multiplier les exemples. Napoléon III ne peut pas s'abstraire complètement du système. Le vrai problème, c'est Bismarck. Parce que Bismarck, par crainte d'une revanche française après 1870-71, a commencé à constituer quelque chose qui est totalement contraire à l'esprit du concert européen. C'est une alliance permanente du temps de paix. Ça, c'est totalement contraire parce qu'une alliance permanente du temps de paix, qu'il fait avec l'Autriche et l'Italie, finalement, c'est désigner par défaut l'adversaire éventuel. Donc, interrompre le processus de concertation permanent. C'est commencer à introduire un clivage là où il faut maintenir le concert permanent des grandes puissances. Ça, c'est le point de départ sur le plan diplomatique international qui a commencé à gâcher le système. Parce qu'on n'a plus eu réellement un système de concertation permanente. Du moins, il a continué à exister, mais il a périclité. On a vu au contraire monter un nouveau système d'équilibre entre deux systèmes d'alliances rivaux, la triplice germano-austro-italienne d'un côté et la triple entente franco-anglo-russe de l'autre. À partir du moment où de plus en plus on abandonnait les principes de la concertation permanente, on découpait l'Europe en pointillés. C'est d'ailleurs en gros le long de ce pointillé que l'Europe s'est brisée en 1914. Il y a eu d'autre part un deuxième facteur qui lui est peut-être moins perçu mais qui a été très important. C'est la perte d'une notion, d'une perception, d'une civilisation commune et de valeurs partagées. Le mot « Europe » figure beaucoup moins souvent dans les écrits et les discours au début du XXe siècle qu'au milieu du XIXe siècle. Ce qui monte, en revanche, sont les revendications nationales, voire même pré-racistes, comme le panjamanisme et le panslavisme, qui nient radicalement l'Europe. L'Europe, en tout cas, l'Europe de Vienne, n'est-ce pas ? Ça, c'est une remise en cause radicale. De façon générale, un nationalisme, je dirais, de plus en plus éloigné des règles du concert européen, affaiblit ce système qui ne va pas résister aux conflits croissants. En 1914, le seul pays proposé au moment de la crise de 14 de recourir à une solution traditionnelle du concert européen, c'est la conférence internationale pour régler un problème brûlant. Seul pays qui ne fait, c'est l'Angleterre. Jusque-là, en cas de grande crise européenne, un appel au Congrès avait en général donné un bon résultat. Là, personne n'écoute Londres. C'est la guerre.
Pourtant, paradoxalement, après la Première Guerre mondiale, c'est le wilsonisme qui triomphe, qui met en avant ces nationalités.
Oui, la seule chose, c'est que les Européens, si on y regarde de près, ont été obligés, évidemment, d'accepter en théorie le wilsonisme, mais ne l'ont pas accepté totalement en fait. Bon, par exemple, la conférence de Versailles repose théoriquement sur les 14 points et affirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais dans la pratique, personne n'a demandé aux Slovaques s'ils voulaient vraiment faire partie d'une Tchécoslovaquie comportant 14 populations différentes. Même remarque pour les minorités en Pologne, en Roumanie, en Yougoslavie, etc. Au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on a fait éclater l'Autriche-Hongrie, ça c'est un fait. On a détaché certains pays de l'ex-Empire des Tsars, c'est également un fait. Et à partir de là, on a reconstitué des États multiethniques. Pour des raisons essentiellement géopolitiques, pour servir de contrepoids face à l'Allemagne. Mmh. Et ce sont finalement les grandes puissances de l'époque, bon, de 1919, qui ont reconstitué tout cela d'une façon qui rappelle Vienne. L'organisation même, d'ailleurs, de la conférence de Paris, ce sont les Français qui l'organisaient, puisqu'elle se tenait à Paris. Ils ont repris tout simplement les schémas des conférences du 19e siècle, et même, de façon caricaturale, les principales puissances et les puissances à intérêt particulier. Mmh, mmh. C'est directement issu du Congrès de Vienne. C'est le même système, c'est toujours les grandes puissances. Ça, Wilson l'a accepté. Mmh. D'autre part, bon, en théorie, on a mis en place comme système de gestion internationale la Société des Nations, qui évidemment ne correspond pas au Conseil européen traditionnel, parce que les petites puissances ont les mêmes droits que les grandes, au moins en principe, parce qu'elle est universelle et pas européenne. Mais dès 1925, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et si vous étudiez bien les accords de Locarno de 1925 entre la Grande-Bretagne, l'Italie, la France, l'Allemagne et la Belgique, en fait, derrière les textes, ils reconstituent le concert des principales puissances, Grande-Bretagne, France, Italie, Allemagne. Il n'y a plus l'Autriche parce qu'elle n'existe plus. Et il n'y a pas la Russie parce qu'elle est bolchevique, n'est-ce pas ? Et sans ça, c'est un retour au système de concertation privilégié des grandes puissances. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques des années 20 et 30 continuent à utiliser le terme de concert européen.
Mmh. Alors, l'Académie a reçu très récemment Otto de Habsbourg, qui est un membre de l'Académie, un correspondant étranger de l'Académie des sciences morales et politiques, dont l'œuvre est très marquée par celle de Koudenhoff-Kalery, qui a justement défendu une idée d'Europe. Et après, Aristide Briand, d'ailleurs, va reprendre plusieurs de ses idées. Comment se placent ces deux personnages, Koudenhoff-Kalery et Briand ? Ils se placent également dans cette continuité du concert où ils veulent aller bien au-delà et ils pensent déjà à ce qu'on appellera plus tard la fédération.
Je pense que la réponse est un peu entre les deux. Ils vont au-delà du concert européen, mais peut-être pas bien au-delà. Mmh. C'est un concert européen plus. Dans les deux cas, il y a d'abord une visée assez concrète, je dirais, pour les deux hommes. Sur ce point, ils se rencontrent, n'est-ce pas ? L'Europe est affaiblie collectivement, disons, après la Première Guerre mondiale. Il faut lui permettre de se maintenir face aux États-Unis d'un côté, je dirais, sur le plan économique, bon, et face à la Russie bolchevique, l'Union soviétique, de l'autre, sur le plan politique et géostratégique. On n'est plus dans la situation d'une Europe dominant le monde et qui pouvait tranquillement s'occuper de son nombril. On est dans la situation d'une Europe qui a maintenant des rivaux au niveau mondial. Donc, les méthodes traditionnelles ne suffisent plus, n'est-ce pas ? En même temps, Koudenhoff-Kalery n'est certainement pas un fédéraliste européen. C'est en fait un conservateur, c'est classique, pas bien les égards. Quant à Briand, ce n'est pas non plus un fédéraliste européen. Il veut ajouter l'équilibre rétabli par le traité de Versailles une négociation permanente permettant de réconcilier les Allemands et les vaincus en général avec la nouvelle situation en Europe. Il veut ajouter une dimension économique, parce qu'il a bien compris que maintenant les questions économiques internationales sont absolument fondamentales. Il veut, d'autre part, défendre et promouvoir la démocratie libérale comme norme implicite, mais pas explicite, mais comme norme implicite en particulier, pour que la République de Weimar soit confortée. Il estime que c'est la meilleure garantie de paix pour la France. Et en même temps, il y a une arrière-pensée qui va d'ailleurs faire échouer son programme, finalement, c'est transformer dans le vocabulaire, en le camouflant d'ailleurs son projet d'Union européenne, le système des traités de paix de 1919-1920, pour que ce système perdure, assure donc la sécurité, même la prédominance française, mais d'une façon moins provocante pour les autres. C'est pour ça que je pourrais parler là de concert européen plus. Certes, il a parlé d'Europe très tôt, beaucoup, mais enfin, ce n'est pas du fédéralisme européen. Il y a discussion là-dessus, je l'ai tout de suite.
Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse sur cette époque, donc cette première moitié du XXe siècle, où apparaît un phénomène qui est très important. Alors, vous débattez de l'expression, il s'agit de la brutalisation des sociétés européennes. Vous préférez l'idée de guerre totale, parce que la brutalisation, la guerre par définition à toutes les époques est brutale. C'est une notion nouvelle. Toutes ces idées, d'ailleurs, d'un point de vue général, que ce soit le libéralisme, la brutalisation des sociétés européennes, tous les mouvements sociologiques, politiques, économiques, vous les présentez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ce débat de brutalisation de sociétés européennes ? Qu'est-ce qui fait l'unicité, en quelque sorte, dans le sens négatif du terme, de ce début de siècle ?
Oui, bon, ça c'est tout le problème de la Première Guerre mondiale, n'est-ce pas ? De ses causes et de ses conséquences. Bon, en deux mots, la notion de brutalisation, mot peut-être pas le mieux choisi, mais enfin, on comprend ce qu'il veut dire en tout cas, veut montrer qu'il y a eu, certains disent avant même la Première Guerre mondiale, dès les guerres périphériques dans les colonies ou la guerre des bourgs, même des Anglais contre les Africains du Sud autour de 1900.
Claude Mossé remonte bien au-delà.
Oui, on fait dire, à mon avis, à Claude Mossé des choses qu'il n'a pas forcément dites quand on regarde le texte anglais d'origine et pas le titre de la traduction française par la suite. Mais enfin, ça, c'est encore un autre débat. Bon, à la limite, le mot brutalisation, à mes yeux, n'a pas de sens, puisque la guerre est par définition brutale. Si vous lisez des récits de la guerre de 70, c'est une guerre extrêmement brutale. Bon, on massacre les prisonniers, dans certains cas, on se livre à des combats épouvantables au corps à corps. Enfin bon, la guerre dite réglée, la guerre du XVIIIe siècle, on avait voulu justement régler. Éviter ces ascensions aux extrêmes et surtout pour que les civils soient touchés le moins possible. C'est un peu une exception dans l'histoire, n'est-ce pas ? La guerre, par définition brutale, sans ça ne sert à rien. Le point, c'est qu'à partir de la notion de brutalisation de la guerre, on veut dire que Auschwitz est contenu en germe dans la façon dont la Première Guerre mondiale s'est déroulée. Alors, moi, je crois que c'est tout à fait discutable, parce que la Première Guerre mondiale produit certes des réactions nationalistes en Allemagne, en Italie, également. C'est l'une des causes, certes, d'avènement du national-socialisme et du soviétisme, par définition, par destruction du système ancien, c'est mécanique. Mais en même temps, elle produit d'autres effets, la Première Guerre mondiale. Elle produit la naissance d'un courant pacifiste extrêmement fort, en France et en Grande-Bretagne en tout cas. Elle produit d'autre part, pour la première fois, l'apparition de la notion de crime de guerre. Avant, vous savez, dans les guerres, on massacrait les paysans pour leur piquer leurs cochons, on violait leurs femmes, enfin, personne n'y faisait attention. Les gravures de Callot, c'était l'horreur de la guerre, mais enfin, c'était une description poétique, si vous voulez. Il n'était pas question de faire un procès à qui que ce soit dans ces cas-là. Bon. Si un chef décidait de pendre des pillards, c'était uniquement parce qu'il souhaitait qu'on maintienne l'ordre dans ses troupes, que ceux-ci ne se dispersent pas partout. Première Guerre mondiale, dès le début, on tient une comptabilité des exactions qui ont lieu, par exemple, lors de l'entrée des forces allemandes en Belgique, n'est-ce pas ? Et dès le début, on en appelle ensuite au jugement de l'univers. C'est une revendication qui n'est pas simplement morale, qui est même juridique. Le traité de Versailles, il y a une clause qui est très importante, même si elle n'a pas été exécutée sous cette forme, c'est l'obligation pour l'Allemagne de livrer plus de 800 dirigeants, empereurs en tête, aux alliés pour être jugés par les alliés. Ce n'est pas d'abord Nuremberg, c'est dès 1919. En d'autres termes, l'idée d'un droit international permettant dans certains cas de s'ingérer dans la conduite intérieure d'État. La possibilité de décider au nom d'un droit international supérieur que certains ordres ou certaines actions, même en temps de guerre, peuvent être qualifiées de crimes de guerre et conduire à des condamnations internationales, tout ça apparaît avec la guerre de 14. C'est une autre face, disons. C'est peut-être l'autre face d'une même médaille. Ça, c'est possible. Mais si on parle uniquement de brutalisation, on oublie cet aspect qui est extrêmement important. De même, les blessés, on avait un peu commencé à s'occuper d'eux au XIXe siècle, avec les batailles de Napoléon III en Italie, la création de la Croix-Rouge, etc. Mais je crois que c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale, et pas tout de suite d'ailleurs, pas tout de suite, que l'on prend conscience du fait qu'il faut soigner les blessés le mieux possible, les retaper comme on peut le faire à l'époque, bon, bien entendu pour récupérer des combattants. Mais en même temps, parce que ce n'est plus le soldat professionnel ou le malheureux paysan qui avait tiré un mauvais numéro au tirage au sort du IXe siècle, c'est tout un chacun, c'est le service absolument universel. Tout le monde y passe. Donc tout le monde a dans sa famille un fils, un frère, un beau-frère, un cousin qui pourra être dans un hôpital militaire. Donc du coup, tout le monde souhaite qu'on soigne. Et ça, ça vaut pour l'ensemble des pays européens qui ont participé au conflit. Donc, bon, le problème des femmes, le problème de la place de la femme dans le conflit... c'est la première fois qu'on se pose ce genre de questions, qu'on prend des dispositions, y compris financières, pour permettre aux épouses des combattants de survivre matériellement. Et bon, avant, on n'avait jamais mobilisé autant, le problème ne se posait pas de la même façon, puis surtout, une fois de plus, c'était de malheureux paysans. Personne ne s'occupait de savoir ce que devenait leur famille. Mais là, la démocratisation, en quelque sorte, des sociétés européennes conduit à un type de guerre différent, où tout le monde est... finalement engagé, peut-être au moins dans sa famille frappé. Du coup, il y a un certain intérêt politique à s'occuper de tout le monde, pour dire la chose de la façon la plus cynique. Alors, en revanche, ce qui me paraît beaucoup plus utile, c'est la notion de guerre totale, ou de guerre devenant beaucoup plus totale, si vous voulez, que les guerres précédentes. Parce que les moyens matériels, la durée du conflit, l'ampleur maritime du conflit, l'utilisation de moyens nouveaux, etc., conduit évidemment à un approfondissement du conflit. Ça, c'est la notion de guerre totale qui va se développer tout au long du XXe siècle et aboutir, après ça, même à la peur de la guerre nucléaire, si vous voulez, qui est la guerre absolument totale, si vous voulez. Bon, je pense que c'est plus utile du point de vue intellectuel, plus cohérent et plus neutre. Ce qui me gêne dans cette expression de brutalisation, même si ce n'est pas ce qu'ont voulu dire les auteurs, mais pour l'étudiant moyen qui lit ça, c'est qu'on est plus méchant, n'est-ce pas, en 14-18, qu'on l'était avant. Ce qui, à mon avis, n'est pas exact, ou du moins, met le débat à une sorte de niveau moral qui n'a rien à voir avec l'affaire. C'est pour ça que je n'aime pas ce terme de brutalisation.
Georges-Henri Soutou, nous refermons cette parenthèse et nous en revenons à la chronologie. Et après le concert européen, il y a, après 1945, cette notion de construction européenne. Et c'est ce que je vous propose de voir dans un instant. Merci d'être à l'écoute de Canal Academy. À tout de suite.
Tout ce qui touche la Grèce touche Jacqueline de Romilly. Écoutez-la parler des arbres, commenter Sophocle et l'Olivier, Platon et le Platane, raconter la mythologie du laurier. Jacqueline de Romilly, un arbre pour la Grèce, dans l'émission Focus sur Canal Academy.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à l'histoire de l'Europe. Je reçois Georges-Henri Soutou, auteur du livre « L'Europe de 1815 à nos jours », paru au PUF, aux presses universitaires de France, dans la collection Nouvelle Clio. Nous avons longuement abordé cette notion de concert européen, Georges-Henri Soutou, qui trouve en quelque sorte son échec, même si vous avez souligné la continuité entre les deux guerres avec le 19e siècle. En 1945, je reprends l'expression, de début d'émission, l'année un peu zéro d'une notion qui est celle de construction européenne. Mais cette construction, finalement, est toute relative puisque l'Europe est divisée en deux.
Oui, la guerre froide a évidemment à la fois retardé la relance de l'Europe proprement dite et en même temps, elle a incontestablement accéléré la notion nouvelle de construction européenne supranationale intégrée à vision éventuellement fédérale, pour développer peut-être tout ce que signifie construction européenne. En effet, en 1945, contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, personne, sauf quelques esprits isolés, ne pense à l'actuelle construction européenne. La France veut rétablir l'Empire baptisé Union française. La Grande-Bretagne considère qu'il ne fait pas partie de l'Europe. Veut pas faire partie de l'intérieur, elle c'est l'Empire. Bon, la Belgique, la Hollande veulent d'abord récupérer leur contrôle ou maintenir leur contrôle sur le Congo belge, voire l'Indonésie. Pour leur sécurité, ce qui les intéresse, c'est l'Angleterre. L'Europe, en tant que disons, nouvelle création intégrée, naît, à mon avis, en dehors de quelques milieux, bon, mais naît au niveau politique général, sérieusement qu'en 1948, et encore doucement, à la suite de la guerre froide. C'est la brutalité de la politique soviétique en Europe orientale et le coup de Prague de février 1948 qui ont conduit dès 1948 les Européens à se dire « mais il faut peut-être faire quelque chose », c'est la construction européenne. Vous me direz, elle comporte aussi la volonté d'éviter le renouvellement d'une grande guerre du type 1918 ou 1945. Certes, mais en 1945, on pense pour ça à l'ONU, pas à la construction européenne. Donc je crois vraiment que c'est la guerre froide qui a fait prendre conscience de deux choses. D'une part, il y avait un danger immédiat. D'autre part, il y avait un protecteur américain, mais ce protecteur américain, dès 1947, à l'époque du plan Marshall, dès 1948, quand commencent ces problèmes militaires, il n'a qu'une seule expression à la bouche. Hein. Commencez, vous, Européens, faut pas vous mettre d'accord entre vous, et nous, nous vous aiderons. Le projet d'une Europe, disons, construite, sinon intégrée, il est au moins autant un projet américain à l'époque qu'un projet proprement européen. Dans leur vision du monde, il fallait que les Européens s'unissent pour que l'on puisse justifier les demandes budgétaires présentées au Sénat américain.
Alors, vous dites dans votre ouvrage, ce qui est paradoxal, c'est que la notion de sécurité en Europe, eh bien, elle va venir de l'Est, elle va venir du non-soviétique, et elle va déboucher sur un processus qui est le processus d'Helsinki, qui va se retourner contre l'Union soviétique à terme.
Oui, mais dès 1954, les Soviétiques ont compris qu'il fallait qu'ils aient quelque chose qui puisse être attractif pour les opinions publiques d'Europe occidentale. La notion de sécurité en Europe, évidemment, est attractive. Elle leur permettait, d'autre part, d'espérer introduire un clivage entre les États-Unis et l'Europe occidentale, n'est-ce pas, au nom d'un nouveau système pan-européen écartant les États-Unis. Mais comme les Occidentaux se sont rendus compte que, de toute façon, on ne pourrait résoudre les problèmes posés par la guerre froide, et en particulier le problème allemand, qu'en donnant à l'Union soviétique des garanties de sécurité. Cette notion de sécurité européenne a été progressivement admise et effectivement, après bien des avatars, a conduit à la conférence d'Helsinki de 1975, qui a mis en place un processus pan-européen, mais incluant les États-Unis et le Canada. Ça ne pouvait pas marcher sans ça, évidemment. Mais commençant tout doucement à préparer les bases d'un système international pan-européen qui, évidemment, à l'époque, ne liquidait pas la guerre froide, mais qui déjà commençait à poser un certain nombre de principes qui pouvaient rester valables même après la fin ultime de la guerre froide. D'autre part, ce processus d'Helsinki a introduit à la demande des Occidentaux, qui ont dit aux Soviétiques, si vous voulez la conférence d'Helsinki, ça vous arrange, vous l'avez toujours demandé, mais nous, on veut en échange des garanties sur les droits de l'homme, aujourd'hui. Les Soviétiques l'ont accepté, pensant que ce ne serait pas très important, pas secondaire. Finalement, on se rend compte avec le recul que ça a été très important, parce que ça a donné aux groupes dissidents en Europe orientale et même en Union soviétique, une sorte d'encouragement, une reconnaissance, même sur le plan juridique, la possibilité de dire en cas de procès écoutez, votre gouvernement a signé ces textes sur la liberté d'information, de circulation, etc. Donc ne nous reprochez pas d'appliquer des choses que notre propre gouvernement a reconnues. Bon, je reconnais que ça n'a pas empêché les dissidents d'avoir beaucoup d'ennuis, mais enfin, malgré tout, c'était une légitimation de leur combat. Comme les Soviétiques, d'autre part, n'avaient pas intérêt à rompre ce processus d'Helsinki après en avoir été au fond au départ les initiateurs, chemin faisant, s'est constitué progressivement un ensemble qui a joué un rôle de plus en plus important à la fin de la guerre froide.
Alors, Jean-Henri Soutou, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. Vous évoquiez ces droits de l'homme dans le processus d'Helsinki. Ces droits de l'homme constituent un passage obligatoire pour toute personne qui souhaite entrer dans l'Europe. Et pourtant, cette Europe reste, au crépuscule du XXe siècle et à l'aube du XXIe siècle, non pas vidée de son contenu, mais on a du mal en quelque sorte à la cerner. Vous utilisez le terme d'abstraite, de vague sans rivage, avec une conception toute civique. Comment redonner à cette notion européenne une substance telle qu'elle pouvait l'avoir dans, chez les élites à l'époque moderne ou encore au XVIIIe siècle ?
Là, vous ne vous adressez pas à l'historien, hein, vous l'adressez au citoyen, parce que l'historien vous dira, primo, qu'il n'y a pas de réponse scientifique à la question que vous venez de poser. L'historien ajoutera que c'est probablement trop tard maintenant pour avoir une Europe que j'appellerais identitaire, hein, une identité européenne forte. Dans ce sens-là, on a raté, à mon avis, la période favorable qui était celle des années 60, 70, peut-être 80. Donc, je ne peux pas vous donner une réponse extrêmement optimiste.
Plus citoyen.
Citoyen, c'est très bien, les droits de l'homme, c'est parfait, mais ça ne suffit pas pour définir l'Europe, parce qu'un pays comme la Nouvelle-Zélande est infiniment plus proche des critères idéaux, des droits de l'homme, etc., etc., que bien des pays qui font actuellement partie de l'Union européenne ou qui sont candidats à l'Union européenne. Donc, je pense que la seule issue serait de revenir à un minimum de sagesse politique, de ne pas trop poser des questions de civilisation européenne qui divise, n'est-ce pas, qui, dans une Europe en plus très largement laïcisée maintenant, ça n'ira pas très très loin. Mais si on veut bien considérer que l'Europe est aussi un système d'équilibre, un système qui doit fonctionner harmonieusement, est-ce que l'entrée de pays extrêmement peuplés, qui ne partagent pas les mêmes normes, ne sont pas du même niveau d'organisation, enfin bon, ils n'ont pas les mêmes conceptions, y compris en relations internationales d'ailleurs, est-ce que cela ne risquerait pas de porter un coup mortel à ce qui a été construit jusqu'à maintenant ? Là, il faut se poser la question, quelles sont les conséquences très concrètes de l'entrée de pays comme la Turquie, voire un jour la Russie d'ailleurs, qui n'a jamais caché qu'après tout, un jour pourquoi pas elle, poserait à l'Union européenne actuelle. Il suffit de regarder une carte, de regarder les frontières, de regarder les politiques en présence et de comprendre que ça changerait complètement la donne, que ça ferait probablement sauter tout ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant.
Eh bien, c'est sur cette question que nous allons nous quitter, Georges-Henri Soutou. Je rappelle le titre de votre ouvrage, un indispensable ouvrage pour tout étudiant ou toute personne qui s'intéresse aux questions européennes et à son histoire, l'Europe de 1815 à nos jours, paru dans la collection Nouvelle Clio aux presses universitaires de France. Je cite également l'ouvrage dont nous avons beaucoup parlé au cours de cette émission, L'Ordre européen du 16e au 20e siècle, paru aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne. Vous pouvez le commander sur le site internet des presses de l'Université de Paris-Sorbonne. Et en 2007, La Pologne et l'Europe, un ouvrage auquel vous avez participé chez le même éditeur, Presse de l'Université de Paris-Sorbonne. Merci beaucoup, Georges-Henri Soutou.
Merci, Christophe Niguès.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.